Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de sport. On va parler pendant 1h30 d'haltérophilie tout d'abord. Et puis en deuxième partie, on parlera de randonnée, de rando santé, de marche nordique avec nos trois invités. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ma colistière préférée, Valérie.
Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Comment vas-tu?
Très bien, je te remercie.
Pas trop dur le changement d'horaire?
Non, pas du tout.
Parce que t'as vu, il fait beau, c'est agréable.
Oui, non, mais ça...
Et ce qui est bien, c'est que les auditeurs, maintenant, peuvent nous écouter en préparant un barbecue.
Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, personnellement, ça m'a pas fait d'effet cette année, on va dire.
Pas d'effet?
Non, bah, comme je suis à la retraite, donc c'est bon. Ça fait pas d'effet.
Et puis, on a notre technicien préféré, Bruno. Salut, Bruno.
Salut.
Ça va?
Ça va, en pleine forme.
Alors, Bruno, en fait, c'est vrai qu'il fait de la technique... Mais des fois, il y a des sujets qui l'intéressent, il aimerait bien participer. Et donc, aujourd'hui, il participera un petit peu avec nous. C'est agréable. Et puis, Bruno, il a toujours de bonnes questions. Mais le problème, c'est qu'il ne les pose pas en direct. Donc, ça sera l'occasion, justement, de poser des questions. Donc, aujourd'hui, c'est l'haltéro. Hein, on va pousser de la fonte.
Et puis, la marche nordique.
Ouais, et de la randonnée. T'aimes bien la marche?
Ça m'intéresse un peu.
Ah justement, je vais te présenter tout d'abord nos invités. Alors, l'haltérophilie, c'est le club de Monteux. Hein, donc, c'est EEAR. Qui veut dire Étoile Espérance Aurore Réunie de Monteux. Et pour en parler, je suis avec Jean-Pierre Brunet, le vice-président du club. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs.
Donc il y aura beaucoup d'actualités, il y a eu l'Assemblée Générale de la Fédération Française, il y a eu au niveau du club un changement de présidence, donc on en parlera tout à l'heure, hein, mais un gros problème, plus des compétitions.
Bien sûr.
Et en deuxième partie d'émission, hein, comme on disait à l'instant, il y a de la rando santé, avec le référent au niveau du département, hein, franchement, on ne peut pas trouver mieux, c'est Jean-Pierre Tallieux. Ça va Jean-Pierre?
Ça va, très bien, merci à vous.
Un habitué des ondes.
Bonjour à voilà. Les auditeurs.
Et ça fait toujours plaisir de l'avoir. Donc tu es chargé de communication auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de Vaucluse, et tu es référent départemental au niveau de la rando santé, donc tu sais tout sur la rando santé.
Je sais tout, en principe. S'il n'y a pas de questions piège, je saurai tout.
On fera un petit quiz. Et tu es accompagné d'une charmante dame, Laurence. Alors, j'espère pas accrocher le nom. Mongenet.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc tu es animatrice de randonnée au club Randolille.
Oui, je suis d'abord animatrice de marche nordique et ponctuellement animatrice de randonnée pédestre. Mais d'abord, moi, c'est la marche nordique.
Voilà, mais justement, certains auditeurs peuvent se poser la question de savoir quelle est la différence entre la marche nordique et la randonnée. En deuxième partie d'émission, vous saurez absolument tout. Voilà, donc, et surtout que la marche nordique est vraiment une discipline en plein essor hein, depuis les 4-5 dernières années.
Ah oui.
Et c'est de plus en plus prisé.
Oui.
Et la preuve, Bruno, il est intéressé par ça. Donc, ça sera l'occasion justement d'aborder ce sujet.
Je crois qu'il y a 25 clubs déjà dans le département du Vaucluse qui pratiquent et qui proposent la marche nordique.
À la fois, le nombre de clubs et le nombre d'adhérents augmentent régulièrement.
Eh bien, tu vois, tu auras peut-être un adhérent supplémentaire tout à l'heure.
Et des adhérents enthousiasmés, je précise.
Ben, tant mieux. Alors, notre cher Alexandre n'est pas là parce qu'il est en plein préparation du bac, passage du bac, blanc ou bac.
L'oral.
L'oral. Mais en tout cas, il a beaucoup de travail, donc je le salue. Hein, et puis, j'essaierai de le remplacer pour les résultats nationaux. Je sais qu'il est irremplaçable, mais on va faire notre possible. Avant cela, une information, parce qu'on parle du local... Bah, comme vous le savez certainement, la Carpentras Night Fever en raison de conditions climatiques catastrophiques samedi a été reportée. Elle a été reportée au samedi 29 avril prochain. Et les personnes qui étaient déjà inscrites peuvent garder leur inscription. Il n'y a strictement aucun souci. Et l'organisation se fera à l'identique. Donc il n'y aura aucun souci. Mais c'est vrai que pour des raisons de sécurité, comme c'est une compétition familiale, les organisateurs ne voulaient pas de blessés. On l'a publié sur Facebook, mais c'était c'est une sage décision. Mais en tout cas, c'est pas annulé, c'est simplement reporté. Et puis un scoop, hein, on en parlait juste avant l'émission, c'est au niveau du club de rugby à 13 de Carpentras. On a un président hors pair, Jean-Pierre Gouret, qu'on a eu l'occasion de recevoir régulièrement. On le recevra bientôt aussi. Et il arrête sa présidence. Voilà, donc ils vont rechercher un nouveau président. Mais il a fait le choix, on va dire, d'arrêter son mandat de président. 3 ans qu'il a passé en tant que président. 6 ans au niveau du bureau. Donc, voilà, lorsqu'on le recevra, on en parlera un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est une grosse perte pour le club. Et de toute manière, bon, on aura bientôt certainement le nom du nouveau président. Voilà, c'était les petits scoops de ce week-end. Je te laisse parler des résultats sportifs du locaux et puis on enchaînera avec les nationaux.
Voilà, on va parler aujourd'hui de basket, de hand, de tennis de table et puis de VTT. Donc je vais commencer par le basket avec l'ABC de Carpentras. En U11 garçons, Carpentras recevait Château-Renard. Carpentras s'est imposé 60-4. En U13 garçons, donc Carpentras recevait la Perne. Et là encore, Carpentras s'est incliné 46-53. En U13 filles, Carpentras se déplaçait à Cavaillon et s'est imposé 29-21. En U15 filles, en quart de finale du championnat de Vaucluse, allez, L'Isle-sur-la-Sorgue recevait Carpentras. Carpentras donc s'est imposé largement 58-32. En U18 garçons, Carpentras se déplaçait à Avignon et s'est incliné 40-72. En senior région filles, la Carpentras, elle, se déplaçait les filles donc au Pen Mirabeau et elles se sont inclinées 41-49. Et enfin en senior région garçons, Carpentras se déplaçait à Marseille et là aussi, ils se sont inclinés 56-98. Handball, Mazan, en National 3, les filles ont fait une superbe perf. Elles se sont imposées face à l'accro 43-28. Donc, match largement mené. Donc, les filles, match tranquille.
Mais franchement, elles font une année magnifique.
Voilà. Elles sont deuxièmes au classement général. Donc.
Et on peut-être entrevoir
la Nationale 2 l'année prochaine.
Et puis surtout, on en parlait avec...
Je crois que ce sera la première fois de leur histoire.
Ouais, et puis on en parlait avec Pascal Vassé, justement. Et parce que c'est bien de vouloir monter en Nationale 2, mais il faut aussi avoir les épaules financières, de recrutement. Et ils ont les épaules, on en parlait justement. Donc ça serait vraiment bien. Surtout qu'il faut savoir que le club de Mazan est devenu la référence en Vaucluse.
Oui.
Et quand on voit Mazan, la petite ville que c'est, avoir un club à ce niveau-là, franchement, chapeau.
Elles ont toujours eu de la chance, c'est vrai. Il y a eu
du talent. C'est pas de la chance, c'est du talent.
Non, il y a eu, oui, voilà. Non, mais il y a eu un vivier, on va dire, continuel. Depuis plus de 30 ans, il y a un vivier de filles. Malheureusement, après, elles quittent les lieux parce que elles font des études, comme on avait dit. C'est toujours la problématique de Mazan et des petits clubs, malheureusement, qui sont à haut niveau. Elles perdent le fil et c'est pour ça. L'année prochaine, j'espère qu'en National 2, on arrivera, un, à avoir de l'argent et deux, à garder les filles. Je continue en championnat de territoire, c'est-à-dire en plus de 15 ans féminin, l'Entente Carpentras s'est incliné une fois de plus face à Vaucons, 27-14. Les moins de 18 ans, donc Mazan s'est imposé là sur son terrain, 27-25 face à Plan de Cuc. En moins de 16 ans, Méditerranée, donc Mazan, là encore, s'est imposé 31-25 face à Bouillargues. En moins de 16 ans, territoire, Sorgue recevait Mazan et Mazan s'est imposé 28-26. Chez les moins de 14 ans, c'est Mazan encore là qui s'est imposé 28-14 face à Plan d'Orgon. Chez les moins de 12 ans, fille, donc en équipe 1, Mazan, donc là aussi, c'est encore imposé 31-8 face à Avignon et première de sa poule. En moins de 12 ans, garçon, Mazan donc rencontrait l'Ultra-Sorgue 13-2 et aussi contre Valréas 10-0. Donc je passe au tennis de table. Donc il y avait aussi du tennis de table ce week-end.
Je crois qu'il y a eu de beaux résultats.
Oui. Même Mazan a eu mon résultat en général.
Ah oui, non, mais je parle du tennis de table.
Oui, aussi. Bon, on a quand
le
même...
ping-pong.
Voilà. Ping-pong. Non, tennis de table. Ping-pong, c'est entre nous.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Donc, l'équipe 1 régionale donc, perd 9-5 à Courthézon et Carpentras est 5e. L'équipe 2 en division 1 perd 8-6 à Entraigue. Tu me dis qu'il y a eu de bons résultats, c'était moyen, mais bon, c'est pas grave.
Bah oui, c'est ce que je vois.
Carpentras 7e.
J'ai mal lu en fait les messages du club.
L'équipe 3 en D1 donc, gagne 8-6 contre Courthézon. Donc, Carpentras est 4e. Bon, ils ont quand même des places honorables, on va dire.
Oui, on pratique la méthode Coué, voilà. Donc c'est bon.
L'équipe 4 en D2 gagne 8-6 contre Pernes, donc Carpentras est 7e. Et l'équipe 5 donc en D3 gagne 10-4 contre les îles sur la Sorgue. Tu as lu la fin, toi, en fait. Et l'équipe 6 en D3 perd 13-1 contre Entraigues. Là, Carpentras est 5e. Malgré ces petites défaites, on va dire, ils sont quand même bien dans le classement général. Donc voilà. Et aussi, je voulais simplement parler de BMX. Je disais VTT, mais en fait, c'est le BMX.
Tu sais qu'il y avait... Pareil, hein.
Non, mais
bon. Tu vas les froisser. Hein.
Oui, oui.
C'est comme le tennis de table et ping-pong.
Oui, voilà. Non, mais bon, j'ai encore fait une erreur. Il y avait la Coupe de France à Sarriant, je te rappelle.
Ah oui.
Et donc, cette année, il y avait plus de 600 participants venus de toute la France et aussi de plusieurs pays européens comme la Hongrie, l'Espagne, etc. Donc, ça s'est passé à Sarriant. C'était l'équipe de Stéphane Garcia qu'on avait reçue qui s'est occupée de ça, donc avec tous les bénévoles, hein, évidemment. Et il y a eu quelques petits résultats, malgré le vent qui a été malheureusement présent et qui a nui énormément à cette compétition. Hein. Alors, je vais donner les résultats. C'est un peu des résultats vauclusiens, là. Ce n'est pas que des résultats pernois et sarianais. Donc, Victor Agosti du BMX Avignon-les-Angles, lui, échoue en quart de finale, mais en tant que première année, reste le plus rapide des vauclusiens sur la piste. Abéliane Nijem-Lèbre, donc là de Perne, atteint un très beau podium. Elle finit troisième. En cadet, Clément Jard, donc du BMX Cavaillon, monte sur la troisième marche du podium. Damien Pinsard en BMX Sarriant, donc sa pose avec plein d'énergie, donc ce qui représente une des plus belles récompenses pour un pilote. Il la voulait tellement, donc c'est 2 ans. Chose faite, je bafouille. Donc là, il a fini premier. Hein. Bravo donc à Damien Pinsard. Tessa Martinez. Tessa Martinez, attends, que l'on connaît bien, hein, du BMX Pernois. Donc elle a claqué carrément. C'est la performance du week-end. Hein. Elle a fini donc les deux courses, les deux finales. Hein. Donc de très belles remontées et des victoires au panache. Ensuite, il y a eu les 17 ans et plus chez les filles. C'est Morgane Martinez du BMX Pernois, donc qui est la plus rapide. Elle a atteint les deux finales. Malheureusement, dans une, elle chute et dans la deuxième, elle finit quatrième. Enfin, quand même, de très, très, très belles performances. Chez les 25-29 ans, Thibaut Rossi du BMX Cavaillon atteint la finale et retrouve donc les joies du podium. Ensuite, il y a eu les juniors élites. Et là, tu vas voir Simon Lucky du BMX Sarriant qu'on a reçu la dernière fois. Donc, lui a été évidemment en position de force sur son terrain. Il atteint les deux demi-finales de cette Coupe de France et se positionne comme le pilote élite vauclusien numéro 1 au classement individuel. Il y a aussi Mathilde Bernard du BMX Pernois, que l'on connaît aussi, donc qui confirme aussi toutes les prestations obtenues lors des indoors et rentre par 2 fois en finale. Une, donc elle finit en 6e position, et la deuxième en 4e, au pied du podium, donc dans la roue de la championne de France quand même.
Ah oui, c'était de très très beaux résultats.
Voilà. Et au niveau des clubs de DN, ben c'est le BMX Sarriant qui prend la tête du classement des DN2 à l'issue de ce début de la Coupe de France. Donc grâce aux très bons résultats, on le sait, de Simon Lucky et les meilleures prestations de Stéphie Gomez, donc sa compagne, et de Lisa Rizzo.
Voilà. Oh là là, quelle connaissance que tu as.
Non,
tu
sais tout. Non. Je remercie donc. c'est Laurent Ventidelli qui me les a passés. Donc voilà, je remercie. Et puis je remercie d'ailleurs tous les copains qui m'envoient les résultats. Donc si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à m'en envoyer.
Voilà. Oui, ben c'est ce qu'on va faire. Alors, on fait une petite pause et puis après on parle des résultats nationaux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a juste le foot, le rugby à 15. À tout de suite.
J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer 2 fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fadée sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, ma famille, ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia.
Alléluia.
Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Voilà donc de retour dans le studio. Alors sachez bien entendu que vous pouvez nous réécouter hein, demain en rediffusion de 6h30 à 8h. Le podcast sera disponible sur la page Facebook ou bien sûr sur le site de la radio rtvfm.net. Et vous pourrez bien sûr réagir sur notre page Facebook qui est vraiment très alimentée. Si vous voulez vous tenir au courant de tous les événements présents sur le territoire du Comtat Vénessin, de Carpentras, ben c'est l'occasion d'aller sur notre page Facebook. Alors, les résultats sportifs nationaux. Alors, la Ligue 1, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le foot. Alors, les résultats sont un petit peu en dents de scie. Alors, il faut savoir que Monaco, le leader, a été s'imposé à Caen 3-1. Donc, belle performance de Monaco. Hein, ils continuent sur leur dynamique. Et le deuxième, hein, qui est le PSG, recevait Lyon. Bon, la victoire a été un peu timide. Ils ont gagné 2-1, mais c'était un peu timide. Lyon est quand même placé quatrième. Donc, voilà, c'est quand même un bon résultat pour le PSG. Ensuite, vous avez Nice, qui est troisième au classement. Et par contre, Nice, au niveau du classement, a fait un match nul, un partout, contre Nantes, 10e. Donc, même s'ils étaient en déplacement, c'est vrai que ce n'est pas une très, très bonne opération pour Nice. Ensuite, les résultats marquants, bah, c'est Lorient qui a réussi à gagner un match, parce que Lorient est la lanterne rouge, contre Nancy, qui est 18e. Donc, Lorient a gagné 3-2. Et enfin, on avait Bastia qui est avant-dernier et qui, par contre, lui, a perdu contre Metz, à Metz, 1-0. Metz est classé 18e. Donc, au classement général, Monaco est toujours largement devant, hein, avec 71 points. Talonné derrière par le PSG à 68 points. Donc, il y a quand même pas mal d'écart. 4 points, si j'ai bien compté. 3 points.
3 points, c'est pas beaucoup. Hein. C'est juste points. Une victoire avec une défaite d'un côté. Hein.
Mais pour l'instant, voilà, Monaco est toujours devant, en tout cas. Et Nice est 3e avec 64 points. Marseille, 5e, avec 46 points.
Il remonte tranquille.
Et en lanterne rouge, bah, c'est toujours pareil. Hein, le trio de fin. 18e, c'est Nancy. Et par contre, Bastia et Lorient, qui ferment la marche tous les deux, sont au même nombre de points. Mais au goal average, bah, c'est Bastia qui est un peu meilleur. Mais en tout cas, ces trois équipes sont dans la zone rouge au niveau du championnat. Comme on arrive bientôt à la fin du championnat, ça va être très très chaud pour la fin. Le top 14. Alors le top 14, il y a eu quelques surprises quand même. Alors moi qui soutiens Clermont-Ferrand, bah, je suis déçu. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas Alexandre pour me chambrer, parce que bah, Clermont a perdu contre le Racing 92 à Paris, hein, 27-24. Donc c'était un très très beau match, oui. Après, c'est une défaite justifiée, parce que c'est vrai que le Racing 92, même s'ils ne sont pas à la hauteur cette année, ça reste encore le Racing 92. Ensuite, La Rochelle, qui est première, a gagné à Pau 23-13.
Là aussi, La Rochelle fait un bon parcours cette année.
Ah oui, franchement, là, pour l'instant, ils sont devant. Et ils sont, quand je te donnerai les points tout à l'heure, ils sont vraiment bien, bien devant. Ensuite, on a Montpellier qui s'est incliné contre Brive après un très très bon match de Brive. Et Brive s'est imposé vraiment vers la fin. Et Toulon, hein, comme c'est un club qui n'est pas très très loin, bah, lui, il a été perdre à Paris 17-11. Voilà à peu près les résultats de ce week-end. Concernant le classement, bah, c'est toujours La Rochelle qui est nettement devant avec 75 points. Derrière, c'est Clermont avec 64 points. Donc là, La Rochelle continue à prendre les devants. En troisième position, ça fait plaisir, c'est Montpellier. Hein, Montpellier qui garde la tête haute. Et juste derrière, il y a Toulon. Donc Toulon, pareil, hein, il remonte un petit peu. Dans le milieu du tableau, bah, on a le Racing 92 hein, qui est à 49 points. Ils sont 8e. Toulouse qui est à 47 points est 10e. Et à la fin, vous avez donc Paris avec 44 points qui est 12e. Donc quand je parle de Paris, c'est le Stade français. Hein. Ensuite, on a Grenoble et Bayonne. Bayonne qui ferme la marche avec 26 points seulement. Et très très loin quand même de l'avant-dernier qui est avec 33 points. Donc il y a quand même une grosse différence. Et le scoop de cette semaine, c'est que bah, la fusion qui devait avoir lieu entre le Racing 92 et le Stade français ne se fait pas, ce qui est très bien. Par contre, ce qui commence à devenir inquiétant, c'est que de plus en plus de joueurs, alors je parle plus de la fusion, hein, je parle du rugby au niveau national, commence à devenir de plus en plus sale, parce qu'il y a des joueurs qui sont pris en possession de drogue, avec des attitudes qui ne sont pas correctes, et donc ça commence à faire un petit peu peur. Avant, on parlait que le rugby était un sport de brut pratiqué par des gentlemen, hein, vous connaissez le dicton. Malheureusement, ça commence à changer un petit peu.
Bah, ça a dérapé un petit peu en Angleterre, je trouve, hein, que ça avait commencé, et puis maintenant ça continue en France, et puis il y a une histoire de viol aussi, je pense que c'est dans toutes les disciplines.
Oui,
en ce moment, on focalise sur le rugby.
Il commence à y avoir de l'argent. Donc
voilà, exactement, ça pourrit
c'est,
tout.
Hein. C'est le gros problème, c'est l'argent.
Quand
mais bon.
On entend qu'un Messi, si je ne me trompe pas, ou un Ronaldo, il gagne 87 millions d'euros. Donc, et l'autre aussi, donc bon.
Ouais.
Ça pourrit tout, hein. Faut pas s'étonner. Hein.
On ne réalise pas trop d'ailleurs.
Non.
Hein. On ne sait pas ce que c'est 87 millions d'euros.
Non, c'est un peu le chiffre 87, oui, mais pas le million en fait. Voilà. T'enlèves le million et tu mets euro à côté, c'est bon.
Voilà.
Surtout quand on pense que c'est parent.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est parent. C'est ça.
Mais après, c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que le sport, c'est que les jeunes prennent exemple sur les grands sportifs, hein, toutes disciplines confondues. Quelle image on les jeunes. Après, on dit sur les stades de foot, sur les stades de rugby, les jeunes, bah, ils respectent personne. Les arbitres se font agresser. Bah, c'est normal, s'ils regardent leurs aînés faire des bêtises, bah, forcément, eux, ils veulent faire pareil.
C'est le tout permis, le problème, il est là.
Bon, en tout cas, ce qu'on est sûr de ne pas avoir, c'est en haltéro, où là, il y a le fair play qui compte. Et franchement...
Oui, parce que ce n'est pas la fortune hein, qui gagne. Là, il ne gagne pas des fortunes. Là,
absolument pas. Il ne faut pas faire mais... un trophée pour gagner de l'argent.
Mais à Monteux, vous n'avez pas un professionnel d'haltéro?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Non. C'était, il me semblait que c'était un Polonais qui était venu s'entraîner.
Ah non, ça, ce n'est pas pareil. C'est un renfort de l'équipe qui renforce l'équipe 1, qui n'est pas professionnel, qui est amateur, comme, mais qui a des performances qui nous permettent de scorer davantage, quoi.
T'as vu un peu, je sais tout. Hein.
Ouais, il est pas polonais cette année, il a été roumain.
Ah, il était roumain. Ah bah, c'est pour ça. J'ai voulu, toi, j'ai voulu me la péter, mais en fait, mais, je me suis trompé.
C'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a quelques années, on avait un roumain, un polonais.
D'accord.
Robert Dolega.
Et maintenant, le roumain, il s'appelle ?
Oh, je sais plus comment il s'appelle.
Tu sais pas.
Parce qu'on en a deux, en fait.
Mais il vient renforcer, c'est-à-dire qu'il ne s'entraîne pas forcément chez vous?
Pas du tout, pas du tout. Il vient que pour les matchs.
Que pour les matchs? Ah, t'as vu, c'est
original. Ah, je ne savais pas ça.
En attendant d'avoir les garçons issus du club qui puissent constituer l'équipe première, donc nous sommes obligés de passer par là, puisque les autres clubs, de même de la division 1 où on évolue, font pareil, quoi. Ils ont tous un étranger, quoi.
Mais vous avez un nombre de pratiquants minimum à respecter pour la première votre équipe première ou pas forcément?
Non, c'est une équipe de 5 athlètes.
5 athlètes.
Et on a droit à un muté ou un étranger.
Ah oui, ça change quand même. Et au niveau national de l'équipe de France d'haltérophilie, c'est pareil, ils ont droit à des étrangers ou pas?
Non, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Donc. Par contre, on a des anciens Camerounais qui ont été naturalisés français et qui sont français, bien sûr. Mais il faut être français pour faire partie de l'équipe de France.
Oui, parce que si je te pose la question, c'est parce que tu sais, il y a quand même certaines polémiques dans le sport. Le rugby, avec. En fait, il faut avoir joué 3 ans dans le pays où on souhaite postuler justement pour l'équipe nationale. On en a parlé longuement, c'est vrai que ça revient régulièrement en discussion. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu la question au niveau de l'équipe de France d'haltéro.
Nous, il faut être français, quoi, pour faire partie de l'équipe de France.
Bon. Alors Valérie, je vais y arriver. Je ne sais pas si tu savais, mais c'est un club donc Monteux, mais une grosse histoire avec Carpentras.
Oui, mais je le sais, mais je connais, puisque je connais un des on va dire, des adhérents de ce club, hein, Henri.
Henri Amier.
Voilà, Riri, donc, qui était un collègue à moi. Donc, je connais un peu l'histoire, quoi. Il y a quelques années, même un bout de temps, ils sont partis de Carpentras sur Monteux. Alors, ils étaient aux Amandiers.
Voilà. Donc, voilà. Et ce que je te propose, justement, c'est qu'on va parler du club juste après cette petite pause musicale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire dessus. À tout de suite. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. I'll never get to heaven 'cause I don't
RTVFM.
RTVFM.
De retour dans le studio de RTVFM, bien sûr, on est en direct depuis le 102.2 ou bien sûr sur rtvfm.net avec nos invités. Donc si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On parle actuellement d'haltérophilie avec Jean-Pierre Brunet qui est vice-président de l'EAR de Monteux. L'EAR, c'est l'étoile Espérance Aurore Réunie de Monteux. Et tu es également président du comité départemental de Vaucluse d'haltérophilie. Rebonsoir.
Rebonsoir, bonsoir aux auditeurs.
Et on a donc deux autres invités qu'on aura la chance d'avoir en deuxième partie d'émission pour parler de rando santé et de marche nordique. Donc tout d'abord pour la marche nordique, je présente les dames en premier. Laurence Mangenet, animatrice à Rando-Lille, animatrice de marche nordique. Rebonsoir.
Bonsoir. Donc Rando-Lille, c'est un des clubs de randonnée de l'Île-sur-Sorgue. Et sur l'Île-sur-Sorgue, nous sommes les seuls à proposer la marche nordique.
Mais justement, ça sera l'occasion de... Parce que c'est vraiment une activité en plein essor, hein, c'est ce que je disais en tout début d'émission. Et tu es accompagné du référent départemental quand même de Rando-Santé. Donc comme on disait tout à l'heure, il sait beaucoup de choses sur la rando-santé. Jean-Pierre Tallieu, et tu es également chargé de communication auprès de la Fédération française de randonnée pédestre de Vaucluse. Rebonsoir.
Bonsoir, tout à fait Lionel. Bonsoir à tout le monde.
Donc juste avant, on parlait justement d'haltérophilie, on commençait à aborder un petit peu le club de Monteux. Avant d'aborder le club de Monteux, comment ça se passe au niveau des divisions en haltéro? C'est pareil que dans les autres sports, tu as une division 1, division 2. Et est-ce qu'en division 1, tu as des professionnels?
Il n'y a pas de professionnels en haltérophilie, déjà. D'accord. Donc ça, c'est clair. Il y a des renforts d'athlètes qui peuvent venir d'autres clubs ou d'autres pays, mais ils ont un statut amateur. Donc, il y a plusieurs divisions, bien entendu, puisqu'il y a la division 1, où le club de Monteux évolue, avec 18 clubs. Et ensuite, après, il y a National 2. Et ensuite, il y a Régional, quoi, l'équipe régionale. Quoi.
Et au niveau mondial, comment se situe la France?
Au niveau mondial, bonne question. Elle n'est pas en haut du tableau. Elle doit être à peu près au milieu du tableau, puisqu'au niveau européen, on se débrouille pas mal, puisqu'on est, on est devant les Anglais, devant les Allemands, à peu près à hauteur des Italiens. Espagnol avec nous, mais on se débrouille, on est dans le... Au niveau Europe, on est très bien. Par contre, on peut pas lutter contre la Chine, les pays de l'Est, l'URSS et tous les nations satellites à ancienne URSS, quoi. Qui, pour des raisons faciles à comprendre, sont devant nous. Puisque, bon, je dis souvent qu'en France, pour être un sportif de haut niveau, c'est une régression sociale. Alors que pour certains pays, c'est une promotion sociale. Déjà là, les dés sont pipés et on ne peut pas lutter à armes égales. Alors, quelquefois, on a des athlètes qui sortent, comme on a eu des Français, puisque à Pékin, on a eu un vice-champion olympique. Qui peut-être va être champion olympique, puisque l'athlète qui était devant lui a été déclassé pour dopage rétroactif. Et donc peut-être qu'il n'est pas impossible qu'il retrouve un titre olympique, mais 8 ans après, c'est un peu dommage, quoi.
C'est vrai que c'est long quand même pour donner de tels avis. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moins, ça prouve qu'il y a quand même des contrôles. Parce que c'est vrai que soulever de telles charges, c'est comme beaucoup de sports très, très spécifiques. C'est bien d'avoir justement de contrôle.
Si on était à armes égales à ce niveau, on serait, parce qu'un homme est un homme, une femme est une femme, et je pense que mis dans les bonnes conditions, un Français ou un Chinois doit pouvoir faire les mêmes performances. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, en Jeux olympiques de la jeunesse, nous avons un athlète de Monteux, Anthony Coulet, qui a fait médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.
Et puis, je crois savoir que Anthony, donc, qui est, comme tu disais, de Monteux, a quand même, à l'âge de 18 ans, détenu justement a dépassé la charge mythique des 200 kilos.
C'est exact. Donc, il fait partie des 15 premiers Français à avoir fait 200 kilos. Et c'est le premier Français à avoir fait un junior.
Chapeau, hein.
Ouais, mais il a fait donc 201 kilos l'an dernier au championnat de France senior, dont il a été, en tant que junior, champion de France senior.
Parce que la qualité première, c'est quoi? C'est la force,
la vitesse.
La vitesse.
C'est Bruno qui a
retenu la leçon. Voilà. Effectivement, la qualité principale de l'haltérophile, c'est comme le sprint, c'est la vitesse.
D'accord, mais quand tu as 200 kilos au-dessus de la tête, il faut quand même avoir un minimum de force.
Bien entendu, la force, ça se travaille, ça se décuple. La vitesse, on l'a ou on ne l'a pas. Ça fait partie aussi des différences qu'il y a entre certaines nations et les nôtres. C'est que nous, en France, on fait le sport qu'on a envie de faire, parce que ça nous plaît. Et dans les autres nations, on fait le sport pour lequel on est physiquement fait. Et donc, il y a des gens qui sont faits pour faire de l'endurance, d'autres qui sont faits pour la résistance. Les fibres musculaires ne sont pas les mêmes. Et donc, après... Alors, quelquefois, on tombe sur quelqu'un qui aime faire ce sport et qui a toutes les qualités voulues, comme Anthony Coulet. Et puis, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours, quoi.
Jean-Pierre, t'as dû...
Oui, j'avais une petite question. Un athlète qui n'aurait pas cette vitesse...
Oui.
Par contre, il aurait une très très grande force.
Oui.
Pourrait-il quand même faire de grandes performances?
Ah, des bonnes performances, oui. De très grandes performances, j'en doute, puisqu'on n'a jamais vu par exemple, les Basques qui font de la force basque, on peut dire qu'eux sont très forts.
Oui, parce qu'ils soulèvent même jusqu'à 300 kilos, je crois. C'est énorme.
En
1990,
on a fait le gala de la force, où on avait fait venir des Basques, justement. Et donc, on avait un garçon qui avait battu le record du monde à l'époque. Il avait mis une pierre sur son épaule de 255 kilos, quand même. C'est quelque chose de fantastique. Mais ce garçon-là, tu le mets avec une barre et avec une technique imposée. Bon, peut-être il aurait fait...
C'est vrai que les grosses pierres dont tu parles, il les pose sur la poitrine et progressivement, il les monte sur l'épaule. Alors que votre discipline, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de l'explosivité.
Tu l'as dit, c'est de l'explosivité, donc de la vitesse.
Moi aussi, je voulais poser une question à Jean-Pierre. Les entraînements, pour avoir de la force, c'est quoi? C'est de la musculation essentiellement ou...
Mais il faut faire de la musculation, bien entendu. Il faut faire la musculation adaptée aux deux mouvements olympiques que représente l'haltérophilie, c'est-à-dire l'arraché,
qui est
amener la barre à bout de bras en un seul temps. Et le deuxième mouvement qui est l'épaulé jeté, c'est-à-dire on épaule la barre, on la met aux clavicules et ensuite on la propulse au-dessus de la tête. Ça s'appelle l'épaulé jeté. Donc voilà. Et on fait beaucoup plus lourd à l'épaulé jeté qu'à l'arraché, bien entendu.
Et donc, c'est essentiellement de la musculation, quoi. Enfin, pas que ça, mais essentiellement.
C'est-à-dire qu'on apprend le geste et après, on fait de la musculation en fonction de ce geste donné. Donc, on fait de la musculation, quoi. Bien entendu, quoi.
Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Monteux, qui était en première division, et le meilleur club, quand même, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, c'est quand même à noter, de très très bons athlètes. Et ce que je viens d'apprendre justement en préparant l'émission, c'est que le nouveau président est le fils d'un athlète excessivement connu et excessivement bon.
Oui, parce que bon, en référence, on parle de Pierre Gourier, c'est l'athlète le plus titré en France, puisqu'il a participé à 3 Jeux Olympiques, 1968, 72 et 76, à Montréal. Il a été le deuxième Français à faire ses 200 kilos. Lui, il les a fait en 1976, ses 200 kilos. Et donc, Et d'ailleurs, j'arrive ce week-end de l'Assemblée Générale, où le Pierre Gourier a été récompensé avec la médaille de vermeil de la Fédération.
Bien mérité en tout cas,
oui,
parce que franchement, un palmarès comme ça. Et donc son fils est devenu président du club de Monteux, hein, c'est Benoît, c'est ça?
C'est ça, Benoît, donc Benoît qui a...
Que l'on salue.
Que j'espère qu'il nous écoute, qui a 35 ans.
Oh, il est tout jeune.
Oui, il est tout jeune. Donc, comme moi je pensais ne pas vouloir faire un mandat de trop... Je lui ai demandé de prendre ma succession. Il n'était pas trop d'accord. C'est pas qu'il n'était pas d'accord, mais bon, il avait peut-être pensé la prendre plus tard. Mais je lui ai un peu mis le couteau sous la gorge et donc il a pris la présidence. Et je pense que ça se passera très bien.
il faut mettre de la jeunesse dans les clubs.
Ah mais ça, c'est, t'as bien raison, parce que c'est vrai que
c'est tellement
souvent,
rare.
Bah oui, c'est rare, parce que c'est tellement de travail qu'il faut être disponible pour mener un club et tout
bien
ça.
Bien entendu, mais bon, on est là pour l'épauler aussi.
Et tout à l'heure, justement, pour parler du club, on parlait que c'était un club de Carpentras. Alors, un club de Carpentras, ou bien c'est un club de Monteux. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu de tout ça?
Ben, pour les Carpentraciens qui écoutent, il y en a beaucoup quand même qui doivent savoir que l'haltérophilie avec l'EAR Carpentras, à l'époque, s'appelait l'EAR Carpentras. Donc, c'est la plus vieille association sportive, puisqu'elle date de 1888.
Oui.
Donc, il y a peut-être le club hippique qui est antérieur à l'haltérophilie.
Mais ah oui, donc
ça reste au niveau discipline, ça reste le plus vieux club. Alors, pourquoi je dis de Carpentras, puisque le siège social est toujours à Carpentras. Et bon, mais pour des raisons, on va dire, de sécurité, nous avons été obligés d'aller se tourner vers Monteux, qui nous offrait une salle qui nous convenait par rapport à l'ancien emplacement que nous avions à Carpentras, qui était à la cité des Amandiers, et où la sécurité n'était plus permise et où nous allions perdre complètement la possibilité de recrutement au niveau des jeunes, puisque les mamans ne voulaient plus quand même amener leurs enfants à la cité des Amandiers, quoi.
Donc là, vous avez été accueillis par Monteux. Au niveau des entraînements, c'est tous les jours? Comment ça se passe? Alors,
entraînement tous les jours.
Et c'est en fonction du niveau, en fonction de l'âge?
C'est Pierre Gourier qui gère les entraînements. Donc la salle est ouverte tous les jours de 17h. Alors en fonction du monde qu'il y a et en fonction des besoins, entre 17h et 20h, on va dire.
Ah oui, donc il y a une bonne amplitude d'ouverture.
Ah voilà, tous les jours.
Tous les jours. On fait une petite pause et puis après, ce qu'on va faire, on va parler quelques mots également, parce qu'il y a eu des gros événements. Une compétition il y a une semaine et demie,
oui.
Qui a de bons résultats. L'Assemblée Générale de la Fédération Française, avec effectivement certaines nominations de Vauclusiens à la tête. Et puis c'est déjà pas mal. Donc on fait une petite pause, et puis à tout de suite.
Yeah. RTVFM.
RTVFM.
L'haltérophilie, c'est vrai qu'on en parle pendant l'émission. Pendant la pause, bah on continue à en parler parce que c'est vrai que c'est une discipline qu'on connaît tous, mais au final, on ne la connaît pas forcément. Et justement, Laurence, toi qui fais de la marche nordique, tu avais une question à poser justement à Jean-Pierre parce que bah, tu as découvert une activité qui pourrait être en rapport avec l'haltéro.
Oui, alors donc moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui faisaient du crossfit, donc discipline dans laquelle il y a de l'haltérophilie et puis de la course à pied. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Oui, donc je ne parlerai pas du crossfit en général, mais je parlerai du crossfit qui pour laquelle l'haltérophilie fait partie des épreuves qu'ils ont à faire. Maintenant, c'est pas du tout géré par une fédération. Parce que c'est presque professionnel puisque c'est des boxes, un club de CrossFit ça s'appelle pas un club, ça s'appelle ils ont une box. Donc il faut qu'ils payent un temps à la fédération, à un organisme américain qui a créé ça. Donc c'est et ensuite bon, c'est très professionnel.
C'est une sorte de triathlon, alors, enfin, je veux dire, ou biathlon.
Il y a beaucoup d'épreuves, c'est ce qu'on appelle un peu d'intervalle training, non ?
Il y a beaucoup d'épreuves, il y a du monter à la corde, il y a des tractions, il y a la marche sur les mains, il y a énorme. C'est très varié.
C'est un genre de parcours du combattant, non ?
Oui, on va le dire ça. Ça s'approche plutôt du parcours du combattant. Mais, et puis, il y a de l'arraché, mais alors. Là où on se différencie avec nous, c'est que il y a pas de chez nous, et pour que le mouvement soit valable, il faut qu'il soit arbitré par 3 arbitres et qu'il soit correct d'après des mouvements bien établis. Et alors que chez eux, pourvu que la barre elle arrive au bout de bras, par exemple, c'est considéré comme bon. Il y a pas de alors que chez nous, c'est un peu plus compliqué. Mais ça chez nous, ça fait un renouveau d'adhérents, puisqu'on a des athlètes qui sont crossfitters, qui sont licenciés en haltérophilie chez nous et dans d'autres clubs, puisque c'est partout dans la France, et qu'on tombe sur des gens qui ont des très bonnes, très belles qualités physiques, puisque nous avons une junior 53 kilos, Louisiane, qui est qualifiée pour les championnats de France juniors qui auront lieu à Marseille le 27 et le 28. Mais.
Et donc, avec le crossfit, il y a plus de risques de se faire mal qu'à l'haltérophilie si
Moi, je dirais qu'il y a plus de risques parce qu'ils ne font pas attention aux positions. Aux positions du dos et aux positions. Donc, je pense que s'ils ne font pas attention, ils risquent de se blesser davantage que nous. Quoi.
Mais les charges sont moins lourdes.
Les charges sont moins lourdes. Mais elles peuvent être aussi lourdes. Hein. Mais comme ils font, eux, c'est basé sur beaucoup de répétitions. Ils ont dans un temps donné, il faut qu'ils fassent tant de répétitions. C'est énorme.
Oui, donc effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça commence à se parler. C'est une discipline qui commence à se démocratiser de plus en plus. Bah, de toute façon, tout ce qui vient des US, hein, forcément, ça arrive en France.
Ça plaît énormément parce qu'ils ont beaucoup de. Et puis, ils se créent des boxes de CrossFit. Il y en a une à Monteux, il y en a une à Carpentras, peut-être deux.
Je ne connaissais pas ça.
Il y en a au moins trois à Avignon, il y en a une au Thor.
Il y en a à pléthore maintenant.
Moi, je connais quelqu'un qui en cherche pour en faire une en pleine campagne, justement, pour pouvoir à la fois faire de l'haltérophilie en campagne et pour aller courir en campagne pendant les intervalles.
Oui, non, mais c'est une discipline à la mode. Alors, ça durera pas, je ne sais pas. Ouais.
Alors, on va continuer à parler parce que, bon, il y a pas ce week-end, le week-end d'avant, donc il y avait une compétition.
Exactement.
Les Montiliens, c'était des cadets, c'est ça ? C'était le 18 et 19 mars dernier.
Oui. Donc,
c'était la finale de la Coupe de France.
C'était la finale de la Coupe de France à Comines. Comines est une ville frontière avec la Belgique. Donc,
c'est dans le 59, Comines.
Voilà.
Oh, donc, la culture géographique.
Il y a Comines-France et Comines-Belgique. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas là-devant, c'est très loin. C'est 40 km après Lille. Et où nos cadets étaient qualifiés parmi les 6 meilleures équipes de France pour participer à cette finale, puisqu'il y avait 6 équipes en compétition. Nous étions qualifiés derniers, 6e. mais quand même 6e de France, il ne faut pas l'oublier.
C'est des bons résultats quand même.
Ils ont gardé leur 6e place, mais en améliorant leur performance, et notamment, on pourrait citer Gabriel Martin, qui lui est notre meilleur espoir cadet du moment, en catégorie 56 kilos, et qui a fait une performance de type national, puisqu'il est à il a fait 72 kilos à l'arraché, alors que le record de France est à 73 kilos.
Oula.
Ah oui, donc il est vraiment à la limite.
Ah, il est. Je pense que si. Et il ne s'entraîne pas énormément, mais il a d'énormes qualités. C'est du diamant brut. Et je pense que s'il s'entraîne un petit peu pour le championnat de France cadet junior.
Donc là, il est sélectionné. Hein.
Il est sélectionné, mais qui auront lieu à Marseille. Et il battra le record de France à ce moment-là, j'espère.
Bah, c'est bien.
Et nous aurons en junior, bien entendu, Anthony Coulet, qui va redéfendre son titre de l'an dernier, champion de France junior et champion de France senior. Donc, Anthony va à nouveau défendre les couleurs du club de Monteux.
Quand on dit qu'il y a un vivier d'excellents sportifs en Vaucluse, on voit en Amazon avec le hand et on a bien sûr Monteux avec l'haltéro. Et c'est vrai que c'est une discipline qu'on ne connaissait pas et on l'apprécie beaucoup parce qu'on voit que ce n'est pas que de la force, c'est vraiment une technique énorme. Et donc, ce week-end, il y avait l'Assemblée Générale de la Fédération Française d'haltéro.
Voilà, c'est moins côté sportif, plus côté,
c'est moins, voilà,
plus côté politique.
Mais il y a eu quand même des nouveautés, quand même, un changement de président.
Voilà, donc il y a une nouvelle équipe qui a été élue, puisque l'ancien président Marc Andrieux ne se représentait pas. Donc une nouvelle équipe a été élue, avec à la tête Jean-Paul Bulgarides, qui a été élu président. Et dans l'équipe de Jean-Paul Bulgarides et de Guy Collère, parce que je voudrais associer aussi Guy Collère, puisque c'était un binôme qui se présentait dans cette équipe, nous avons quelqu'un du club de Monteux, le trésorier du comité de Vaucluse d'haltérophilie, qui s'appelle Michel Reynaud, que tu connais bien, et qui a été élu, et je pense, sans dévoiler trop de secrets, qui sera secrétaire général de la fédération.
Ah. Et il a eu de hautes responsabilités, parce qu'il était président au niveau du comité aussi.
Ah ben il a été pendant. Il m'a succédé à la présidence du comité de province et il a resté 2 ou 3 mandats en tant que président du comité de province. Également président du comité de Vaucluse, là aussi je lui. Après m'avoir succédé, je lui ai succédé pour être à nouveau président du comité de Vaucluse.
C'est familial en fait tout ça.
C'est un petit peu familial. Bon, la famille haltérophile est pas énorme, donc et les dirigeants, comme dans beaucoup d'associations, ne se bousculent pas. Oui. Donc il faut faire avec ce qu'on a.
Et pour en terminer avec le club de Monteux, combien vous avez d'adhérents à l'heure actuelle?
Alors nous avons, sur la saison dernière, on avait 63, parce que, bon, je le sais, puisque 63 adhérents, 63 avec la spécificité du club de Monteux, c'est que le club de Monteux fait de l'haltérophilie, il ne prend pas des gens pour faire de la musculation, pour faire du loisir. Donc, a priori, pratiquement, à part les anciens, ou les parents qui se licencient, tous les adhérents du club de Monteux sont des participants à la discipline olympique et participent aux compétitions qui leur incombent.
Et les enfants peuvent venir à partir de quel âge?
C'est à partir de 11 ans. On est benjamin à 11 ans. 11 ans, en dessous, la discipline est difficile. C'est pas l'haltérophilie, on joue pas à l'haltérophilie. Donc l'haltérophilie, c'est un peu compliqué pour les enfants beaucoup plus jeunes parce que c'est compliqué pour les.
C'est rébarbatif.
Non, et puis c'est pas ça, c'est qu'ils nous avaient expliqué aussi qu'il y a un problème sur la santé.
C'est qu'ils n'ont pas fini de construire leur squelette.
Voilà, c'est ça, et qu'ils grandissent aussi.
À la limite, c'est pas ça. Non. C'est pas ça, c'est parce que pour faire de l'haltérophilie. Si, c'est un petit peu ça, bien entendu, mais. Parce que quand un gamin de 11 ans, même son squelette, il risque rien parce qu'on ne va pas lui faire relever des charges. C'est une étude simplement du geste avec des manches à balai ou avec des barres de 2 kilos. Donc tous les gamins, quand ils s'amusent dans la rue, ils prennent plus de risques en s'amusant qu'en faisant de l'haltérophilie. Mmh. Donc là, le risque, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est que pour apprendre un geste qui est un petit peu compliqué, il faut être attentif, il faut écouter. Et là, les jeunes de moins de 10 ans, on va dire, ils ont du mal à se concentrer sur cette technique.
Parce qu'un entraînement, c'est combien de temps ? Une heure et demie ?
Une heure et demie, 2 heures.
Ouais, donc, il faut être attentif pendant une heure et demie.
C'est ça qui bloque les enfants. Alors, bien entendu, moi, je vois Benoît Gourier, pour ne pas le citer, puisque c'est le président, il a un gamin de 8 ans qui s'appelle Romain. Et si vous le voyez tirer, il a un geste parfait.
Après, oui, mais il a des gènes, hein, c'est génétique chez lui.
C'est peut-être, mais bon.
Ouais, quand papy,
avec papy, papa.
Mais on lui met 5 kilos et puis il fait un geste parfait à 5 kilos et puis ça s'arrête là. Et puis plus tard, on verra plus tard. Mais je pense que, après, quand tu as déjà la base du bon geste, après, il suffira de l'entraînement. Ça.
Les prochains rendez-vous, il y a Marseille donc pour le chemin de France. Mais oui. Sinon.
Avant, on a une compétition, je crois que c'est le 18 avril, on a une compétition à Monteux, compétition réservée aux débutants. Et puis après, on va à la Villeneuve-Loubet le premier week-end d'avril aussi, pour une compétition interrégionale, pour les interrégionaux, qui sera aussi qualificatif pour les championnats de France. Et après, au début juin, on a les championnats de France seniors alors.
Eh ben, un sacré programme. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Brunet, vice-président du club de Monteux et président du comité départemental de Vaucluse d'Altéro, d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de pouvoir parler de notre discipline qui, on n'a pas trop vu l'étonnement que vous avez de ne pas connaître l'haltérophilie, c'est bien ce que...
Ah mais complètement.
Et voilà.
Mais maintenant, on se couchera moins bête ce soir, parce que vraiment, on a appris beaucoup
mais
de choses.
Mais déjà, la dernière fois, déjà, on s'est couché moins bête.
Ben voilà, mais là, encore plus, parce que vraiment, ben, on sait tout, et on sait que effectivement, ben, l'haltérophilie, c'est vraiment une discipline à part entière.
Et une discipline olympique.
Et une discipline olympique.
Et au féminin également.
Et hein. Au féminin aussi.
Et au féminin. Ça sera le mot de la fin. On se retrouve juste après ça pour faire de la marche nordique. À tout de suite.
Trop de fierté pour avouer, de fierté pour avouer. Les sentiments il faut pas jouer, les sentiments il faut pas jouer. Les sentiments ils te font douter, les sentiments ils te font douter. Arrête de dire qu'ils te dégoûtent, ah ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises, tes sottises, tes sottises. Pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. Je te vois, tu soupires, laisse-le partir, je suis là au pire. Bah ouais, quand cœur est brisé, toutes les femmes te disent, c'est l'homme le fautif. Hein. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. French kiss. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. De toi, tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour suffit pas d'y croire, tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir,
Tu te refais l'histoire,
mais tu l'aimes.
Tu l'aimes, tu l'aimes.
Ah, tu l'aimes.
Tu l'aimes, tu l'aimes.
Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout,
pas du tout.
Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout,
pas du tout,
pas du tout. French kiss.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour dans le studio d'RTVFM, ou devrais-je dire Radio Territoire avant tout, parce qu'on a changé notre logo il n'y a pas si longtemps que ça. Un magnifique logo visible bien sûr sur la page Facebook, et vraiment il a été étudié et réalisé avec un grand talent, hein Valérie?
Oui, c'est une jeune fille qui nous l'a peint aussi là. Sur notre... Là, c'est de la peinture, ça. Oui, oui, c'est de la peinture. Beaucoup croient que c'est un autocollant, mais c'est de la peinture. Non, ça a été réalisé par une jeune peintre de Pernes-les-Fontaines.
Peut-être ce que je vais faire, c'est qu'on va le prendre en photo et on le mettra sur, sur le podcast, hein, la photo, comme ça au moins tout le monde pourra voir le nouveau logo.
Donc,
c'est plus réellement RTVFM, parce que les initiales, c'est Radio Territoire Ventoux. Voilà. C'est un petit clin d'œil, hein, parce que vraiment, c'était un magnifique... une magnifique réalisation. Bon, on va marcher un petit peu, mais pas n'importe quelle marche. C'est vrai que on va parler de marche nordique. Alors, ma première question, Laurence, parce qu'on a quand même nos deux invités, hein, je vous représente. Donc, Laurence Mogenet, animatrice de marche nordique au club de l'Île-sur-Sorgue, Rando-Lille. Et bien sûr, Jean-Pierre Tallieu, qui est chargé de communication auprès du comité départemental, mais également référent en rando-santé. Tu pratiques la marche nordique, Jean-Pierre ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Mais à force d'entendre mes collègues, je commence un petit peu à avoir certaines...
T'as envie de pratiquer, voilà. Tout ça.
Envie mais... peut-être pas, mais disons, je commence un petit peu à savoir expliquer.
Parce que quelle différence y a-t-il entre la marche nordique et la randonnée ? C'est la même chose,
mais
non ?
Non, c'est pas du tout pareil. Déjà, la randonnée, c'est une activité et la marche nordique, c'est un sport. Déjà.
Ah, déjà.
Déjà. Donc, la randonnée...
Donc Jean-Pierre, il n'est pas très sportif.
Si, 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 mais bon, pas pareil.
Quand même un peu. Un
petit peu. Bah, quand tu marches 5 heures, moi j'appelle ça un sport aussi, hein, ouais, et que tu fais ça régulièrement.
Ouais, mais elle va nous expliquer pourquoi. Voilà.
Donc la marche nordique, c'est une marche rapide qui accentue le mouvement naturel de balancier du corps et on se propulse avec des bâtons. Et des bâtons spécifiques avec une dragonne qui tient aux mains. Et donc, on a un mouvement particulier qui va nous permettre de nous propulser et qui va nous faire avancer.
Parce qu'en moyenne, on va à quelle vitesse ?
Alors, on peut aller en moyenne à 5-6 km/h et on peut faire des pointes jusqu'à 8-10 km/h.
Ah oui, quand même.
Ah, d'accord. Alors qu'en randonnée, une allure de randonnée, c'est plutôt...
C'est 1 km/h.
Non, c'est 4 km/h et ça peut être 3 km/h en montée. Donc on va beaucoup plus vite, on fait des pas plus grands. On est sur des circuits qui sont souvent quand même moins accidentés que sur la randonnée pédestre. Et voilà, et l'objectif, c'est vraiment un objectif de vitesse, un objectif cardio aussi.
Alors que la randonnée, c'est plutôt visite
voilà,
de lieux, etc.
Voilà, c'est un sport qui va se pratiquer. En effet, on peut marcher à la journée. C'est vrai que quand on fait sur une journée plus de 5, 6 heures, 10 heures de marche avec des gros dénivelés, c'est du sport aussi. Mais dans la randonnée pédestre, il y a aussi l'aspect regarder les paysages. On peut s'arrêter plus souvent, on boit un coup, on prend des photos. Alors qu'en marche nordique, l'objectif, c'est vraiment de tracer.
Il y a un chronomètre
Non, on a alors plus ou moins tous ceux qui en font souvent des chronomètres. Et puis on mesure chaque fois, on dit on a fait tant de kilomètres avec telle vitesse moyenne, telle vitesse de pointe, tant de dénivelé.
D'accord.
Mais il n'y a pas de compétition.
Si, il y a des compétitions, mais qui sont organisées par l'athlétisme, parce que c'est l'athlétisme qui a introduit la marche nordique en France. Et la Fédération française de randonnée pédestre est délégataire. Donc nous, on pratique dans nos clubs, on peut former des animateurs, mais on n'organise pas des compétitions. On organise des manifestations, comme celles qu'on va organiser le 8 avril, mais qui n'ont pas du tout un objectif de compétition, qui ont un objectif de démonstration.
Donc quand tu parles de compétition, on va faire par exemple 7-8 km le plus rapidement possible.
Oui, alors sur quand la compétition est organisée par l'athlétisme, il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de courir. Donc courir, ça veut dire qu'il faut toujours avoir un pied au sol. Donc c'est contrôlé par des arbitres. On est sur un circuit fermé. Alors ça peut être par exemple l'hippodrome. Et si le circuit, si on dit on va faire 6 km, et qu'il va falloir faire 10 fois le tour de l'hippodrome. Donc on n'est pas du tout dans l'optique de la randonnée pédestre ou dans la randonnée pédestre. Dans les clubs de randonnée qui pratiquent de la marche nordique, on aime bien être dans des beaux paysages. Surtout qu'ici, la région s'y prête. On a une région qui est magnifique.
Ah oui, c'est clair.
Pour faire aussi bien de la randonnée que la marche nordique et toute l'année.
Et sinon, parce que c'est vrai que c'est quand même une discipline qui se démocratise de plus en plus. Maintenant, ça fait 4-5 ans, on parle de plus en plus de marche nordique et peut-être un peu moins de randonnée. Parce que quand on parle de randonnée, souvent, on assimile la randonnée avec... les sentiers de grande randonnée, etc., les GR et tout ça. Mais quel est justement l'intérêt que les gens y trouvent ? C'est vraiment la forme physique ?
Il y a plusieurs intérêts. Déjà, nous, la marche nordique, on va avoir des séances qui vont durer entre 2 et 3 heures. Donc, nous, à l'Île-sur-Sorgue, on a 2 sorties par semaine. On se retrouve une fois le samedi matin à 9 heures et on est rentré avant midi. Donc, on part, on va sur des circuits qui ne sont pas très, très loin de chez nous. C'est-à-dire qu'on va sur Lagne, Fontaine de Vaucluse, la colline de Pernes. Donc, on n'est pas très loin. On fait une séance d'échauffement. On marche 1h30 et après, on fait des étirements et on rentre. Donc ça veut dire que le samedi matin, on a fait quand même une activité physique, après la douche et on est tranquille le week-end. La randonnée, on peut partir toute la journée. Donc c'est une activité qui est beaucoup plus chronophage. Donc il y a déjà cet aspect-là qui nous permet aussi d'attirer des personnes qui travaillent. Le mardi soir, on fait des séances qui sont plus courtes et qui sont encore plus dynamiques, où vraiment on a un objectif de vitesse. Donc on a déjà cette première approche. Puis après, c'est vrai qu'au niveau de la forme physique, on va travailler le cardio. Et l'avantage aussi de la marche nordique, c'est qu'on travaille tous les muscles du corps. On fait travailler 90% des muscles du corps. On fait travailler aussi bien les jambes, la taille, les épaules, les bras. Donc, on travaille tout.
La langue ?
Alors ça, c'est un gros souci pour moi en tant qu'animatrice. Donc moi, j'aime bien qu'on essaie de donner à notre club un rythme assez rapide. Et quand ça bavarde, ben, ça va moins vite. Ça va moins vite, ça fait moins bien les gestes. Donc on essaie de les faire se recentrer sur la respiration, le dénivelé, accélérer. Mais bon, à partir du moment où on a une activité sportive collective, l'aspect convivial est toujours proche. Puis c'est vrai que nous, on a l'habitude aussi régulièrement de faire des apéros, des repas. Enfin bon, ça fait partie aussi du charme des associations.
Et est-ce qu'on progresse vite en marche nordique ?
Alors là, ça dépend. On a des personnes qui n'ont jamais fait beaucoup de sport, qui viennent à la marche nordique et pour lesquelles ça va être plus ou moins rapide. On a des personnes en surpoids qui s'imaginent qu'ils vont maigrir en faisant la marche nordique. Alors ça va pas du tout. Il faut d'abord maigrir et après on vient à la marche nordique parce que sinon ça suit pas. Et puis on a beaucoup de personnes qui viennent de la course à pied par exemple et qui peuvent plus pratiquer la course à pied parce qu'ils ont des problèmes de genoux et qui cherchent une activité un petit peu moins contraignante parce qu'on a les bâtons, donc on a moins de chocs sur les genoux, sur les hanches. Et par contre, ce public-là, il démarre tout de suite.
Et donc là, il va y avoir un événement qui aura lieu le 8 avril prochain. Toute la journée.
Ouais.
Quel est cet événement ?
Alors cet événement, c'est la journée départementale de la marche nordique qui est organisée par le comité départemental de marche nordique qui confie une partie de l'organisation au club de Randolille.
C'est un soutien de la fédération.
Oui. Voilà.
Quel est l'objectif ?
Alors l'objectif, c'est de faire connaître la marche nordique au plus grand nombre. Donc on communique à ce sujet et c'est ouvert à tous. Tous les pratiquants, tous ceux qui sont intéressés par la marche nordique et qui ont envie d'essayer sont les bienvenus.
On n'est pas obligé d'être licencié ?
Non, pas du tout. Non. Donc il suffit de venir. Alors bon, on a des heures à partir de un petit peu avant une heure. Et le coût de participation est de 5 euros pour financer la location des bâtons.
Parce que vous prêtez tout ?
Oui, on prête les bâtons. Oui, on prête les bâtons surtout pour les débutants. Donc on a plusieurs parcours. On On a des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux d'initiation, donc avec un animateur de marche nordique qui va prendre un petit groupe, qui va bien leur expliquer la technique et après leur faire faire un premier parcours de 4 km. Après, on va avoir des plateaux d'échauffement, avec un premier départ pour un parcours qui fait 10 km et un petit peu après, une autre séance d'échauffement avec un parcours de 6 km.
Donc c'est vraiment la découverte.
Oui, la découverte. Donc nous, pour les parcours de 10 km, il faut absolument que les personnes viennent avec leur bâton et qu'elles aient déjà fait de la marche nordique, parce que si elles ne suivent pas le rythme, elles peuvent se perdre dans les collines ou retarder. Et par contre, pour les parcours d'initiation, on prête les bâtons.
Mais pas les chaussures. Donc, il faut venir avec des chaussures.
Oui, il faut avoir des chaussures. Alors, l'idéal, c'est des chaussures de trail. Pas de chaussures de randonnée, pas de chaussures montantes. Il faut des chaussures de trail, donc avec une bonne accroche sous la semelle et basse, de manière à pouvoir avoir les chevilles très souples.
C'est pas trop lourd comme chaussure ?
Non, c'est des chaussures légères. Non,
légères ?
C'est des chaussures légères.
Donc, cet événement a lieu à quel endroit ?
À Somanes. Donc, c'est rendez-vous au château de Somanes. Donc, la mairie de Somanes nous a prêté son château, donc qui est un endroit magnifique dans lequel on va pouvoir faire les inscriptions, les échauffements, les étirements. Et après, on part sur un circuit qui a été préparé par Claude Bergès, le président de Randolille.
Et le rendez-vous est prévu à quelle heure ? Alors, au niveau de l'inscription, je parle.
C'est à partir de midi et demi, une heure moins le quart.
Donc, c'est vraiment l'après-midi ?
Oui, c'est l'après-midi, ouais. Parce que le matin, il faut tout préparer.
Et oui.
Et oui.
Et je crois savoir que ce n'est pas la première édition.
Non, c'est la quatrième.
Et Valérie, je crois que tu avais participé
à la deuxième, moi, en 2015.
Et tu m'avais dit que c'était super convivial.
Oui, moi, j'avais bien aimé. Donc, suite à ça, j'ai acheté mes bâtons, mais moi, je marche toute seule. Je vais dans la forêt de Venasque et je marche.
Oui, mais l'avantage de pratiquer en groupe, c'est que, bon, déjà, il y a de la stimulation, c'est-à-dire que vous pouvez essayer d'aller plus vite. Si vous avez un animateur, on peut vous corriger sur les mouvements.
C'est sûr. Oui, mais après, c'est le temps. Donc, les entraînements ne sont pas nécessairement les heures auxquelles, au moins, je peux le faire.
Ça prouve qu'en ayant participé à cette journée d'initiation, ça t'a donné envie de pratiquer la marche nordique.
Ah oui, moi, je trimballe, comme je disais, mes bâtons un peu partout. Donc, quand je m'en je les prends. Je trouve que c'est plus facile pour marcher. J'ai l'impression. Bon, déjà, on marche effectivement plus vite. Quand il y a à Venasque, ça fait que monter, hein, donc on monte beaucoup plus facilement. Et puis, bon, en descendant, on se tient aussi. Hein, c'est une façon de se tenir. Il faut faire attention aussi parce que ça glisse aussi et de ne pas tomber avec les bâtons au risque de se casser les poignets.
Ouais, mais ça, il y a une technique fonction de la pente et tout. On ne va pas descendre de la même façon.
Non, moi j'avais apprécié. Mais bon. Comme elle me l'a expliqué, non, là, ça ne me plaît pas du tout, là. Moi, c'est plus en dilettante et, je veux dire, bon, faire un effort, mais pas aller faire le kilomètre. Ça ne me plaît pas du tout, ça.
Non, nous, on est quand même...
Je suis pas dans cette optique, voilà.
Nous, on essaie quand même d'être dans une optique dynamique.
Voilà, mais... moi, je serais plus dans l'optique de Jean-Pierre, moi.
Mais Jean-Pierre, tu vas essayer cette journée ?
Non, nous on a pas mal d'un.
J'essaie un petit peu parce que je suis obligé de suivre pour faire les photos. Voilà. Alors voilà.
On a plusieurs participants qui font de la compétition aussi, hein, et les fils de Claude Bergès, par exemple, font régulièrement les compétitions avec l'athlétisme et terminent dans les premiers.
Moi, Laurence, j'avais une question à te poser.
Oui.
Avec un œil vraiment étranger à ça, quoi. Hein. Le fait que les bâtons soient fixés pratiquement à la main, au poignet, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si le bâton se coince entre deux rochers, de se faire vraiment mal au bras ?
Bah écoute, non, moi j'ai jamais vu dans le groupe, j'en fais depuis 4 ans maintenant, et on a à chaque sortie, on a entre 20 et 30 participants, donc on a quand même un recul, et jamais personne ne s'est fait mal au bras. L'objectif de la marche nordique, aussi comme c'est dynamique, c'est d'acquérir beaucoup d'agilité, justement au niveau des chevilles, des appuis, des sauts. Alors on a des personnes qui tombent, on a parfois des personnes qui se sont fait un peu mal aux chevilles ou qui se griffent, mais jamais de problème.
Mais il y a des bâtons là où ils existent avec les lanières qui s'enlèvent si on tombe.
On tombe vite et on n'a pas le temps d'enlever les bâtons. Hein. Mais j'ai jamais vu de soucis comme ça.
Non.
On fait une petite pause et puis on va terminer. Si vous avez des questions sur les chutes, comment soigner les chutes et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Puis après, il y a un deuxième événement de randonnée. On en parlera juste après la pause musicale. À tout de suite.
Yeah, it's time to go crazy. You know we gon' do it like Lindsay, Britney with a little bit of Charlie. Then we might go wild like Miley. Pop bottles, then pop Molly. Till the room spin around, Kylie. Can you hear me, Wiley? Don't really be happy, Smiley. Party, party, party. I came to party, party, party. She came
to party. She twerking like she Miley. Pop bottles and pop Molly. No, we ain't gon' be sorry, sorry. Cause we are one soul and one heart. We feel it from the start right now. We gotta live our life. Cause we are one soul and one heart. We feel it from the start right now.
RTVFM.
Nous rentrons dans la dernière partie de l'émission. À chaque fois, on le dit toujours, ça passe trop trop vite. On était en train justement de parler de la marche nordique, donc du rendez-vous à Somman. Hein, ça sera le 8 avril prochain. Donc, vous êtes tous attendus, non licenciés, licenciés, plusieurs parcours, la convivialité. Donc, tu prêtes les bâtons?
Oui. Enfin, c'est pas moi,
il y a toujours le t-shirt aussi.
Alors non, cette année, on a prévu une petite serviette pour se sécher, voilà, un petit peu de coup. Et on a prévu aussi de faire une tombola avec des lots qui nous sont donnés principalement par Esprit Course.
Ah, donc c'est bien.
Ouais, oui, moi,
c'est
j'ai bien. Encore le collector, hein, j'ai le t-shirt.
Le t-shirt. Ouais, ouais. Alors, il y a un autre événement qui sera organisé un peu plus tard, hein, ça sera au mois de mai. Hein, c'est le 13 avril, c'est ça, Jean-Pierre?
Le 13 mai.
13 avril. Au mois de mai, 13 avril. Non, ouais. 13 mai, oui, c'est ça.
C'est ça.
Le 13 mai. Alors, de quoi s'agit-il donc? Ce n'est pas de la marche nordique?
Ce n'est pas de la marche nordique. Ce n'est pas non plus de la randonnée traditionnelle. C'est un... On appelle ça donc... C'est une, ça fait partie de la journée départementale de la rando pour tous, hein, qui comprend la rando santé, la handi-rando, des personnes handicapées sur fauteuil roulant, et la rando douce. La rando douce plutôt destinée aux personnes qui ont déjà fait de la randonnée et qui sont un peu vieillissants et qui veulent marcher plus tranquillement, moins long, moins difficile.
Et la différence entre la... Est-ce que moi je te coupe, mais la différence entre la rando santé et la rando douce? C'est-à-dire la rando santé, c'est des personnes qui sont malades?
Non, la rando santé, c'est très contraignant. Hein. Outre le diplôme que nous avons d'animateur, nous avons un module de formation complémentaire qui nous permet de mener un groupe de rando santé.
Et sinon, le public concerné entre la rando santé et la rando douce?
La rando douce, donc je disais, c'est pour des personnes qui ont déjà randonné normalement, qui ont vieilli et qui veulent randonner moins difficile, moins long. Hein, mmh. Et aussi des personnes qui n'ont jamais marché de leur vie et qui veulent s'essayer. Donc ça, c'est la rando douce. Hein. Mmh. C'est, disons, 7-8 kilomètres environ. Hein. Ensuite, vous avez la rando santé, qui est très contraignante parce que c'est pour des personnes qui ont eu des problèmes de santé, alors des problèmes de santé résolus, c'est-à-dire guéris, hein, ou bien des personnes avec souffrant de maladies chroniques, comme le diabète par exemple, mais qui sont stabilisées. Donc pour ces personnes-là, pour des personnes aussi qui ont eu des problèmes cardiaques, des AVC, des infarctus, donc la rando santé est destinée pour ces personnes-là.
Tu demandes systématiquement un certificat médical ?
On en demande deux. Nous nous demandons le certificat médical du médecin traitant. Et ensuite, nous avons le médecin fédéral de la fédération qui est là à chaque départ. Et quand il y a des nouveaux participants, il fait aussi une petite discussion avec. Et il prend des notes. Et c'est lui qui dit, en fait, la personne part ou ne part pas.
D'accord. Et ça t'arrive que certaines ne partent pas ?
Jusqu'à présent, comme j'ai déjà pu le dire précédemment, c'est une discipline de rando qui est très très récente. Hein. Ça date d'un an maximum, la rando santé. Hein. Et donc, pour l'instant, nous avons eu toujours des départs possibles attestés par le médecin fédéral. Mais bon, nous avons des cas quand même difficiles. Hein. La dernière randonnée qu'il y a eu il y a 15 jours, il y avait des personnes diabétiques, insulino-dépendants, qui avaient directement l'insuline apportée à la pompe, oui, et donc qui ont été à un moment donné obligés de faire une petite pause.
Mais c'est bien parce que ça permet justement à des personnes qui n'ont pas accès forcément à la pratique sportive, bah justement de s'adonner à ça. Par contre, lorsqu'on veut, pour cet événement par exemple, faire de la rando santé, il faudra arriver avec son certificat médical.
C'est indispensable.
Voilà. Alors, ça a lieu à quel endroit ?
Alors, ça a lieu dans un quartier d'Avignon qui s'appelle la Ceinture Verte d'Avignon. C'est entre le boulevard de la Rocade et la Durance. C'est un quartier encore assez vert de la ville. Et donc, c'est quand même un coin quand même un peu privilégié encore. Hein. Donc, ça va avoir lieu là. Et c'est un endroit quand même qui est intéressant, que nous avons déjà reconnu et qui nous avons, testé pour savoir si ça convenait vraiment.
Voilà, ça ne comporte aucune difficulté.
Il n'y a aucune difficulté, aucun dénivelé. Hein. Et c'est des distances en rando santé qui sont très très faibles. Hein. C'est de 4 à 6 km maximum.
Et jusqu'à, vas-y, termine. Hein.
Jusqu'à 100 mètres de dénivelé maximum aussi.
D'accord.
Là, on parlait justement de la rando santé, qu'il fallait impérativement avoir le certificat médical. Pour le handi-rando, est-ce qu'il y a malheureusement des personnes qui sont exclues de par leur handicap ou tout le monde est accepté ?
Alors là, c'est la troisième partie ça, de cette journée-là. La handi-rando, jusqu'à l'an dernier, jusqu'en 2016, ça faisait partie de la rando santé. Maintenant, la fédération l'a quand même exclue. Nous, on continue toujours à la proposer parce que nous avons eu des contacts l'année dernière, des personnes qui ont été vraiment satisfaites de nos services et on ne peut pas les abandonner comme ça. Et mon association, qui s'appelle les Solars d'Éviron du Pontet, c'est une des deux associations existantes, l'autre étant Rando Marche Monteux. Ce sont les deux seules associations vauclusiennes pour l'instant labellisées qui peuvent se permettre d'accompagner de tels groupes. Voilà.
Donc ça, c'est bien de savoir. Donc, le rendez-vous, on a dit
rendez-vous sera à 13h. C'est que l'après-midi, hein, à la salle communale de la Durance. C'est une salle municipale. C'est la mairie de Montfavet qui s'occupe de ça. Et l'adresse, c'est avenue de la Croix-Rouge, Avignon.
Okay, voilà, de toute manière, après, les personnes sont
récupérées par
les animateurs.
Une fois que vous êtes sur l'avenue de la Croix-Rouge, c'est très facile. Il y a des pancartes qui indiquent le lieu.
D'accord.
Bah, il n'y a pas à se tromper. Donc, deux rendez-vous très importants. On a bien sûr la marche nordique, l'événement le 8 avril prochain, et un petit peu plus tard, le 13 mai, la randonnée autrement. Randonnée autrement. Je page Facebook, je pense qu'on a tous les renseignements.
Oui.
Voilà, on a également le site internet, hein, Jean-Pierre.
Oui, bien sûr.
En tout cas, ben, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci de nous avoir reçus pour nous permettre de vous parler de nos passions.
Merci beaucoup à tous.
Et on vous souhaite beaucoup de monde justement sur ces deux rendez-vous. Bien sûr, on passera les affiches sur notre page Facebook. Super. Merci Valérie.
Merci Lionel.
Merci Bruno, tu reviens quand tu veux.
Salut Lionel, à la week-end prochain, la semaine prochaine plutôt.
Voilà, t'oublies pas, hein, le 8 avril, Marche Nordique.
Ouais, j'en parlerai dans mon émission.
Bah, émission, et tu vas en faire.
Ah oui, on vous attend.
On verra. Hein. Sinon, bonne soirée, bonne semaine sportive, et à la semaine prochaine.
Bonsoir.